Vous écoutez « On lit pour vous ».
Une guitare, un chum et harmonium, un texte de Stéphane Laporte, paru le 30 juin 2025 dans la presse. Une journée d'été de l'an 1978. Mon chum, Ronald, et moi, on est sur le balcon arrière chez mes parents. Celui qui donne sur la ruelle. Il fait beau. Il fait chaud. Chantent les oiseaux. Nos blondes sont parties magasiner. Nous, on les attend. On les attend comme deux gars attendent leurs blondes, en faisant rien. En les attendant, on jase un peu, mais pas tout le temps. On parle des expos, on rit pour rien. Non, on n'a pas fumé de joint. On rit pour vraiment rien. Ronald boit une bière, moi, une limonade. On est relax. On vient de finir notre première année de cégep. Dans 2 mois, on entamera notre 2e année de cégep. Rien de trop stressant, pour le moment. On ne sait pas trop ce qu'on va faire dans la vie. Moi, j'aimerais écrire. Ronald aimerait aider. On croit qu'on a encore le temps d'y penser. Belle naïveté. Ronald a apporté sa guitare. Elle est dans le coin. En 1978, les gars qui avaient une guitare ne sortaient pas sans elle. Ils la traînaient partout, comme on traîne son portefeuille. On ne sait jamais, ça peut servir. Quand on avait un peu de temps à perdre, dans ces années-là, on ne prenait pas son téléphone, on prenait sa guitare. Les doigts pinçaient des cordes plutôt que de swiper du vide. Ronald étire le bras et ramasse sa guitare. Timing parfait. On a fini de se raconter notre neuf. Faut dire qu'on s'est vu la veille. Il accorde son instrument. Je sais très bien ce qu'il va jouer. Il va jouer du harmonium. À la question « À quoi tu joues ?», tous les ados de cette époque ne répondaient pas « Je joue de la guitare ». Ils répondaient « Je joue du harmonium ». C'est à ça que ça servait, une guitare, à jouer du harmonium. C'est pour ça que plein de jeunes se sont achetés une guitare pour jouer du harmonium. Ronald joue les premiers accords d'un musicien parmi tant d'autres. Et c'est en plein ça qu'il est, un musicien parmi tant d'autres qui gratouille une chanson de son band préféré. Mais pour moi, il est plus que les autres. Il est mon ami qui me fait partager sa magie. J'aime ça, l'écouter. J'aime ça, le regarder. Quand Ronald joue de la guitare, il n'est plus comme d'habitude. Lui, le désinvolte, le sarcastique, l'ironique, l'anarchiste. Quand il joue de la guitare, il devient engagé, responsable, respectueux, appliqué. Surtout quand il joue du harmonium. C'est pas le temps de niaiser. Il veut être à la hauteur de la pièce, tenter de reproduire fidèlement la partition du compositeur, d'en reproduire la beauté. Et ce n'est pas évident. Fiori a fiorisé la guitare. Avant lui, une guitare, c'était l'instrument facile. Allez, hop, zing, zing. Dis-moi ta clé et je vais t'accompagner. Fiori a fait de la guitare un piano Steinway. Ses successions d'accords, ses montées, ses vols planés, ses descentes, ses remontées et ses silences font qu'une guitare ne sonne plus comme une guitare, mais comme un orchestre, comme un ensemble. Ronald est concentré. Il joue un musicien parmi tant d'autres, avec dextérité. Il n'ose même pas chanter. Tant la musique l'habite. Tant le moment est sacré. C'est moi qui pars le bal. Où est allé tout ce monde qui avait quelque chose à raconter? Bon, c'est pas génial, mais au moins, je ne chante pas fort. Ronald vient m'aider et harmonise sur ma voix. Sans moi, ce serait encore plus harmonieux. Au son de la musique d'harmonium, la ruelle devient plus belle. Les vêtements sur les cordes à linge deviennent des drapeaux blancs. Les petits carrés de gazon deviennent des édens. Et le ciel est premier. Mon musicien termine la chanson. Il a les yeux vitreux. Jouer du fiori, ça vient toujours le chercher. Comme s'il était possédé. Comme si ses mains l'entraînaient là où il ne se croyait pas capable d'aller. Comme si, en lui, s'ouvrait un canal le menant au fond de son âme. Vous me trouvez deep? Ronald ne m'a jamais raconté ainsi son expérience. Mais je connais assez mon ami pour lire dans son émotion quand il vient de jouer du harmonium. Bien sûr, j'en veux une autre. Ronald enchaîne, pour un instant et Dixie. On sourit. On était heureux tantôt, au début de la journée, mais on ne savait pas qu'on l'était autant. Merci, Fiori. J'envie Ronald de savoir jouer de la guitare. Je sais que c'est en flattant ses cordes qu'il dénoue les nœuds de ses obstacles, qu'il en passe des heures et des heures à jouer tout seul, à jouer juste pour lui. Où est allé tout ce monde qui avait quelque chose à raconter? Il est allé dans sa chambre, sur un trottoir ou chez un ami. On a mis quelqu'un au monde. On devrait peut-être l'écouter. Oui, on devrait l'écouter. Mais le plus important, c'est que ce quelqu'un-là s'écoute. Et c'est ce que fait encore mon chum Ronald quand il joue de la guitare, 50 ans plus tard. Il s'écoute. Pour se comprendre. Et c'est ce que je fais aussi en écoutant du harmonium. Sans guitare dans les mains, mais avec mon cœur pas loin. L'œuvre de Serge Fiori nous a permis de voyager en nous-mêmes. Un voyage intérieur qu'on a fait collectivement. En se rapprochant de soi, on s'est rapproché des autres. Sa mort, beaucoup trop tôt, provoque le même effet que sa musique. On veut vivre notre peine tout seul ensemble. À tous les Ronald qui, ces derniers jours, ont repris leur guitare pour jouer la toune qui leur revient dans les oreilles, tout le temps, dites-vous qu'il y a un ami pas loin à qui ça fait du bien. Merci, Serge, de nous avoir fait autant de bien. C'était Une guitare, un chum et harmonium, un texte de Stéphane Laporte, paru le 30 juin 2025 dans la presse.
Bezos Mosque et l'indécence des riches. Un texte d'Alexandre Sirois, paru le 6 juillet 2025 dans La Presse. S'il y a un enseignement à tirer du récent mariage somptueux de Jeff Bezos à Venise, au-delà des diverses controverses suscitées par cet événement délirant, c'est que les provocations des milliardaires ne sont pas terminées. L'événement nous a fait oublier pendant un bref moment celle d'Elon Musk. Mais nous ne perdions rien pour attendre, car le grand patron de Tesla a trouvé de nouvelles façons de faire la manchette, notamment en continuant de tenir tête à Donald Trump et en promettant de créer un nouveau parti politique. J'ai sollicité l'avis de Dalia Namian sur les récents développements dans l'univers des milliardaires. Car cette professeure de travail social à l'Université d'Ottawa a publié il y a 2 ans un petit essai lapidaire sur l'obscénité des riches intitulé « La société de provocation ». À son avis, le mariage du fondateur d'Amazon est un cas exemplaire de ce qu'elle a tenté de démontrer avec son livre. On est dans une ère où les 1% des mieux nantis, au lieu de dissimuler leurs privilèges, ce qui serait une marque d'un minimum de décence, vont au contraire les exhiber de façon complètement ostentatoire, sans complexe, explique-t-elle. Au bout du fil, elle rappelle brièvement tout ce que ce mariage a impliqué. Elle évoque, par exemple, le déferlement de yachts, dont celui de Jeff Bezos, qui fait 127 mètres et qui vaut 500 millions de dollars américains, d'hélicoptères et de jets privés, environ un pour deux personnes, utilisés par les mariés et leurs invités de prestige. L'événement aurait coûté plusieurs dizaines de millions de dollars. C'est vraiment une mise en scène de la puissance, une démonstration que l'argent achète tout et qu'on peut aujourd'hui s'afficher sans retenue, dit-elle. Ce qui est d'autant plus choquant, c'est qu'on est dans une période frappée par tout un ensemble de crises. Ce mariage spectaculaire est, résume-t-elle, un message qui nous dit « Regardez ce qu'on peut faire. Rien ne nous est interdit, peu importe nos folies et les conséquences. » L'événement, lui dis-je, m'a rappelé les résultats d'une étude sur les émissions de CO2 des milliardaires publiée en 2024 par Oxfam. L'organisme a calculé que 50 d'entre eux produisent plus de carbone par leurs investissements, leurs avions privés et leurs yachts en 90 minutes qu'une personne moyenne ne le fait pendant toute sa vie. La professeure réplique du tac au tac avec un exemple précis. Le yacht de Jeff Bezos génère à lui seul 7000 tonnes de CO2 par année, dit-elle, soit l'équivalent de plus de 400 voitures à essence et l'empreinte carbone de plusieurs villages. L'élite économique, c'est l'élite pollueuse. De par son mode de vie, elle contribue grandement au péril climatique, souligne la sociologue. De part et d'autre, qu'un mariage vraiment idéologique, estime-t-elle. Ce qu'il voulait, c'était acheter le pouvoir pour que ça puisse profiter à ses propres intérêts. Derrière sa philosophie et celle d'autres gens très riches qui proviennent de la Silicon Valley, il y a cette utopie un peu libertarienne de dire « On veut vivre dans un monde où il n'y a pas de règles, rien qui puisse empêcher notre accumulation de richesses ». Ajoute cette experte qui s'intéresse depuis longtemps aux inégalités sociales. J'avance une hypothèse. Et si, ces derniers mois, certains milliardaires étaient allés trop loin? La popularité d'Elon Musk aux États-Unis est en baisse. Le mariage de Jeff Bezos, comme je le soulignais, a soulevé la polémique. Et le cynisme fut aussi au rendez-vous quand l'une des fusées de ce milliardaire a fait grimper 6 femmes dans l'espace en avril dernier, dont sa conjointe et la chanteuse Katy Perry. Personne ou presque ne se scandalise outre mesure de leur lubie. On en redemande même, a écrit Dalia Namian dans son essai. Mais si, depuis, on avait atteint un point de bascule? C'est possible, reconnaît-elle. Je pense que, depuis, ce discours critique envers les riches est plus présent dans l'espace public. Et la colère aussi, affirme celle qui participe actuellement au développement d'une série documentaire inspirée de la société de provocation. Mais ni les hommes les plus riches du monde, ni les politiciens qui les soutiennent n'ont dit leur dernier mot, ajoute-t-elle. Elle fait remarquer que les solutions potentielles comme taxer davantage les plus riches et lutter contre les paradis fiscaux sont extrêmement difficiles à mettre en place. Le gouvernement canadien vient d'ailleurs d'annuler la taxe sur les services numériques, qui visait justement des géants comme Amazon. Et on apprenait au même moment que l'impôt minimal mondial de 15% sur les multinationales, adopté par les pays de l'OCDE pour favoriser la justice fiscale, ne s'appliquera plus aux entreprises américaines. Des reculs majeurs et décevants. Il reste que le discours public semble en train de changer au sein de nos sociétés, ce qui rend possible le succès de politiciens comme Zoran Mamdani, socialiste et candidat démocrate à la mairie de New York, qu'elle évoque en entrevue. On a pu dire jusqu'ici qu'au Québec ou ailleurs, on devrait être fier du fait qu'on a des milliardaires parce qu'ils contribuent de diverses façons à l'économie, à la société. Mais il y a un autre discours qui dit que c'est le symptôme d'un échec politique s'il y a des milliardaires. Un échec de l'État qui, clairement, ne répond pas à son rôle de redistribution des richesses, explique Dalia Namian. Et ce discours est désormais jugé plus légitime dans l'espace public et n'est donc plus réservé à une espèce de marxiste grabataire de l'UQAM. Qui est Dalia Namian? Née à Toronto en 1979, elle obtient son doctorat en sociologie à l'UQAM en 2011. Elle devient professeure à l'École de travail social de l'Université d'Ottawa en 2012. Elle publie son essai « La société de provocation » en 2023, récompensé un an plus tard par le prix des libraires du Québec dans la catégorie « Essai ». C'était « Bezos, Musk et l'indécence des riches », un texte d'Alexandre Sirois, paru le 6 juillet 2025 dans « La Presse ».
Jouer la carte de la division dans nos communautés. Une chronique de Denis Daniel Boulay, parue le 20 juillet 2025 dans le magazine Fugue. Paris, le 28 juin dernier. Nous croisons la marche des fiertés dans les rues du Marais. L'ambiance est bon enfant, la foule nombreuse. Pas de char allégorique, pas de bannière de grandes entreprises. Mais ce n'est pas grave, l'important c'est de marquer la journée. En fond de scène, les graves atteintes, ici et ailleurs, contre les personnes LGBTQ2S+, une volonté de rappeler, par ce défilé, que c'est un mouvement international. Les personnes sur les trottoirs affichent des sourires bienveillants, que ce soit des Parisiens, Parisiennes ou des touristes qui ne se privent pas de photographier les marcheurs et les marcheuses. On pourrait presque croire, tant l'ambiance est joyeuse et sympathique, que tout est acquis, qu'on ne devrait plus s'inquiéter. De nombreux commerces arborent le drapeau arc-en-ciel. Il est vrai que l'on est dans le Marais, le quartier le plus gai de la capitale. Celles et ceux qui ont organisé cette marche ont, au même titre que les participants-participantes, un seul mot d'ordre: se mobiliser contre la montée de l'intolérance, de l'homophobie et de la transphobie, portée par la résurgence de partis d'extrême droite, conservateurs et réactionnaires partout à travers le monde. On parle de la Hongrie, dont la marche des fiertés interdite a attiré plus de 200 000 personnes. On parle de celle de la Bulgarie, des retours en arrière pour les personnes trans en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Et dans une tribune, que l'on pourrait qualifier de manifeste, publiée dans les médias, le collectif derrière la marche des fiertés ne prend pas de gants. Bien au contraire. Après avoir fait un survol de l'homophobie et de la transphobie à travers le monde et fustigé les partis réactionnaires, il conclut ainsi : Nous devons lutter contre l'internationale réactionnaire qui sonne à nos portes et arracher de nouveaux droits. Queer de tous les pays, unissons-nous sous nos drapeaux, nos couleurs et nos fiertés. Il paraît qu'en France, la politique est un sport national. Cette tribune en témoigne largement en situant le débat dans le registre de la résistance face à ce qui se passe, plutôt que d'adopter la stratégie des petits pas et d'espérer, en étant gentil et aimable, adoucir et convaincre nos adversaires d'être plus ouverts. Mais devant la montée de l'extrême droite dont le discours se fonde toujours sur l'exclusion de celles et ceux qui mettraient en péril l'identité nationale, la même vieille rengaine, il se peut que la stratégie de la séduction ne conduise qu'à un cul-de-sac. Si, en France, la marche des fiertés suscite des discussions à l'intérieur des organismes communautaires, l'apparition d'un groupe de gays d'extrême droite, ouvertement xénophobe et voulant s'attaquer aux dérives LGBTQ et à la « cancel culture », je cite, a fait taire les dissensions. D'autant que ce groupe, par provocation, avait décidé, comme l'année dernière, de s'inviter à la marche. Participer à la marche au nom de la liberté d'expression. Une provocation évidente. Baptisé Collectif Eros, avec à sa tête un certain Johan Power, il veut rallier les gays patriotes. Proche du Rassemblement national, puis d'Éric Zemmour et de son parti Reconquête, Johan Power fait la joie de toutes les radios poubelles, s'indignant de la présence de drague proche des enfants ou encore affirmant qu'un homme ou une femme ne peuvent pas changer de genre. Sa rhétorique frôle l'indigence intellectuelle. Interrogé sur les personnes trans, Johan Power a expliqué que si nous avons en face de nous une pomme et une banane, demain, la pomme sera toujours une pomme et la banane une banane. Il en va de même pour les hommes et pour les femmes. On ne sait si l'on doit rire ou pleurer. Le collectif Eros a de grandes ambitions, puisque son fondateur espère sous peu ouvrir une cellule de son groupe au Québec. Éric Duhaime sera peut-être intéressé. Son collectif, composé d'une vingtaine de militants, militantes, a fait une brève apparition lors de la marche des fiertés du 28 juin dernier, protégé par de nombreux policiers. Johan Power et ses amis se sont fait huer, bien évidemment. Mais Johan Power et ses followers ne sont pas des épiphénomènes. Force est de constater que beaucoup de gays et de lesbiennes se tournent vers des groupes d'extrême droite qui, aujourd'hui, leur ouvrent grand les portes s'ils adhèrent à leur politique anti-immigration et anti-islamique et anti-trans. Sous la présidente législature en France, le Rassemblement national comptait au moins 24 députés gays, la plus grande représentation dans un parti, certains ouvertement sortis du placard, d'autres outés. Aux Pays-Bas et en Autriche, ce sont des gays qui se sont fait élire à la tête de partis d'extrême droite, et la présidente de l'AFD en Allemagne est une lesbienne. Et bien des homosexuels et des lesbiennes ont voté Trump à la présidentielle américaine, à l'instar de la personnalité trans Kathleen Jenner. La droite a compris qu'elle pouvait rallier certaines personnes des minorités sexuelles qui condamnent l'immigration, la montée de l'islam en Europe ou encore qui considèrent le transsexualisme comme une maladie dont on doit protéger les enfants. Ils et elles reprennent les mêmes arguments que les homophobes relativement à l'homosexualité, il n'y a pas encore si longtemps. On voit donc une forme d'instrumentalisation des LGBTQ à des fins principalement électoralistes. Ne considérons pas cette ouverture comme un gain, loin de là. La plupart de ces partis d'extrême droite se sont battus contre toutes les avancées juridiques pour les LGBTQ et quelques-uns ont, dans leur programme, le désir d'abolir ces avancées. Dans leur rang, certains de leurs membres n'hésitent pas à agresser des personnes gays et trans quand ils le peuvent. Cette ouverture n'est qu'une façade qui ne doit pas rassurer, mais plutôt nous inquiéter. D'autant que s'ils font une petite place aux gays et aux lesbiennes, ces derniers et dernières doivent montrer patte blanche, faire profil bas sur leur orientation sexuelle et se désolidariser des autres personnes de minorité sexuelle et de genre, entre autres les personnes trans. Les nouveaux boucs émissaires. Qu'est-ce qui pousse des gays et des lesbiennes à se tourner vers des partis qui, il y a encore quelques années, auraient bien voulu les voir disparaître du paysage social? Est-ce que, ayant acquis une certaine reconnaissance sociale, ils et elles se croient hors de danger? Qu'est-ce qui les pousse aujourd'hui à condamner les personnes trans? Qu'est-ce qui les motive à se précipiter dans les bras de leurs anciens ennemis et à adopter leur idéologie, à jouer la carte de la division dans nos communautés? Quelques réflexions qui ont traversé nos esprits en regardant la marche à Paris. En quittant le quartier, nous tombons sur cette place qui se nomme aujourd'hui Place des Émeutes de Stonewall. Une piqûre de rappel, au cas où nous serions frappés d'amnésie. Une ligne de départ, en sachant que la ligne d'arrivée est encore là. Ne lâchons pas. C'était « Jouer la carte de la division dans nos communautés », une chronique de Denis Daniel Boulay, parue le 20 juillet 2025 dans le magazine Fugue.